إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture et l'étude de l'épître intitulée « De soins importantes pour toute la communauté » écrite par l'éminent savant Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Nous en sommes arrivés à la leçon 5 dans laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous parle de la bienfaisance. Il a dit, rahimahullah, la bienfaisance n'a qu'un seul pilier, qui consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Donc tout d'abord, il faut savoir que dans la langue arabe, le mot al-ihsan, que l'on traduit ici par la bienfaisance, il désigne la pratique du bien, d'un point de vue général, qui s'oppose à la pratique du mal, qui est la malfaisance. Quant à la bienfaisance, d'un point de vue religieux, celle-ci est de deux sortes. Il y a premièrement la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, la bienfaisance envers les créatures. On va donc voir dans cette assise, incha'Allah ta'ala, quelques points liés à ces deux sortes de bienfaisance, bi'inillahi ta'ala. Donc premièrement, la première catégorie est la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le plus haut degré et le plus éminent degré de la religion. Elle consiste à la perfection de la foi, et ce en réunissant deux choses. La première est la perfection de la sincérité vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu lui voues exclusivement l'ensemble de tes œuvres, et que tu t'écartes de toute forme de polythéisme, comme l'ostentation ou autre. Et la deuxième chose, c'est la perfection dans l'accomplissement de l'œuvre, et ce en te conformant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et en t'écartant de toute innovation parmi les choses nouvelles en religion. Donc vous aurez sûrement compris que ces deux choses qui doivent être réunies afin d'être bienfaisants dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont en réalité les deux conditions d'acceptation des œuvres, qui sont la sincérité et la conformité. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant exclusivement tes œuvres, et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en accomplissant tes œuvres de la manière légiférée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Qui est plus bienfaisant en religion que celui qui se soumet à Allah tout en étant bienfaisant? Ceci est une preuve explicite qu'il n'y a pas plus bienfaisant en religion que celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment il se soumet à Allah? En lui vouant sincèrement et exclusivement l'ensemble de ses adorations. Et ceci est la première condition, la sincérité. Tout en étant bienfaisant, c'est-à-dire en se conformant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré par l'envoi de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire en se conformant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu atteindras cela par la mise en pratique de ce qui est mentionné dans le fameux hadith appelé Hadith Jibril alayhi salam. Lorsque ce dernier est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme et qu'il l'a interrogé au sujet des trois degrés de la religion, l'islam, la foi, l'iman et la bienfaisance, l'ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu en exposant les piliers de chaque degré de la religion. C'est-à-dire qu'il a exposé les cinq piliers de l'islam, qui sont ceux que l'on a vus dans la leçon 2, les six piliers de la foi, que l'on a vus dans la leçon 3, puis il lui a exposé le pilier de la bienfaisance, qui est le plus haut degré de la religion, et il a dit « La bienfaisance, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voir. » Voyez donc que ce qu'a mentionné l'auteur ici, rahimahullah, dans la leçon d'aujourd'hui, ce n'est autre que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé au sujet de la bienfaisance. Donc pour atteindre ce degré, tu dois t'appliquer à réaliser de la meilleure manière les piliers de l'islam. Les cinq piliers que l'on a vus à commencer par les deux attestations de foi, puis la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Ainsi que les piliers de la foi. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc tu t'appliques à réaliser cela en ayant conscience qu'il te convient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. C'est-à-dire que la certitude et la foi véridique du serviteur, elles peuvent lui permettre de parfaire ses œuvres en purifiant son intention et en se conformant à la législation. De sorte à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait décrété que le serviteur ne le voit pas de ses yeux dans ce bas monde. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, aucun d'entre vous ne verra son Seigneur dans ce bas monde jusqu'à ce qu'il meure. Ne le verra pas dans ce bas monde jusqu'à ce qu'il meure et ce, car les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, vous verrez certes votre Seigneur comme vous voyez la lune sans aucune difficulté lorsqu'elle est pleine. Donc bien que tu ne vois pas Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, il est possible pour toi de l'adorer comme si tu le voyais. Et ce, en ayant conscience de sa grandeur, en ayant conscience de sa majesté, en ayant conscience de ses attributs de perfection subhanahu wa ta'ala. Et on voit à travers cela que la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est une cause importante et impérative qui t'aidera à concrétiser ce haut degré de bienfaisance qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Car plus tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, connaissant ses noms, en connaissant la signification de ses noms et ce qu'ils impliquent, en connaissant ses attributs, plus tu pourras l'adorer comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à atteindre ce degré éminent, alors tu dois au moins avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'entend. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que tu fais, et même ce que tu penses, et ce dont tu as l'intention. Donc tout ceci, cela te pousse à quoi? Cela te pousse à t'appliquer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu as conscience que le Seigneur de l'univers t'observe. À titre d'exemple, en ce qui concerne la prière, ceci va te pousser tout d'abord à corriger ton intention, en veillant à ne vouer cette prière qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu as conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que tu recherches par l'accomplissement de cette prière. Il sait quelle est ton intention. Donc, tu vas faire des efforts pour purifier cette intention et t'éloigner de toute forme de polythéisme, comme l'ostentation, la recherche des compliments des gens et autres. Ensuite, après avoir purifié ton for intérieur, tu vas t'appliquer à suivre ce qui est légiféré lorsque tu pries, en veillant à perfectionner ta prière, à perfectionner tes inclinations, à perfectionner tes prosternations, ainsi que chaque mouvement que tu fais et chaque parole que tu prononces durant ta prière. Te conformant ainsi à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Donc tout ceci fait partie de la bienfaisance. Et tu vas aussi faire attention à tes pensées durant cette prière. Car tu as la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que cache ta poitrine. Tu ne vas donc pas te laisser distraire par des pensées futiles, comme des choses liées à des affaires mondaines ou autres, parmi les choses qui peuvent distraire et perturber le musulman lorsqu'il prie. Donc en résumé, la bienfaisance va te pousser à faire preuve de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu vas ressentir de la gêne quant au fait de te présenter à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adorer d'une manière qui ne lui plaît pas. Tu vas donc veiller à parfaire tes adorations de façon apparente, mais aussi de façon cachée. C'est-à-dire que tu vas perfectionner ce qui est visible de tes œuvres, comme tes mouvements, tes paroles et ainsi de suite, mais tu vas aussi perfectionner ce qui est caché dans ton for intérieur. Et tout cela par espoir de la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et par peur de son châtiment. Et pour atteindre cet objectif, comme on a dit, il est impératif que tu aies une foi complète au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu aies la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe ses créatures, qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout et qu'il sait tout. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves, c'est-à-dire quand tu te lèves pour prier, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Ensuite, médite sur ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui vraiment celui qui entend et qui sait tout. Donc si tu as conscience de cela, ceci va t'aider à parfaire tes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans son noble livre: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'accomplissez. C'est-à-dire qu'au moment où tu accomplis cet acte, Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Ceci va donc t'aider à parfaire tes œuvres et à être bienfaisant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie de la perfection de la bienfaisance dans l'adoration d'Allah que tu sois constant dans tes œuvres, et ce aussi minime soit-elle. Ce qui est important, c'est la constance et la persévérance dans les œuvres pieuses. Non pas que tu accomplisses de nombreuses œuvres aujourd'hui, puis que tu les abandonnes demain. Mais ce qui est préférable et ce qui est attendu de toi, c'est que tu sois constant dans tes œuvres. Parle pas des obligations que tu ne dois en aucun cas délaisser, mais en ce qui concerne les œuvres de bien qui sont recommandées que tu accomplis en plus. Tu te fixes un objectif réalisable et tu veilles à être constant sur cela. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'œuvre la plus aimée d'Allah est celle sur laquelle son auteur est constant, aussi minime soit-elle. Aussi minime soit-elle. Car tu ne dois rien mésestimer parmi les œuvres de bien. Toute œuvre que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu la retrouveras auprès d'Allah. Elle ne sera pas perdue, aussi moindre soit-elle. Il est d'ailleurs rapporté à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour à côté de la tombe de quelqu'un qui venait d'être enterré. Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens de sa parole: vous mésestimez peut-être la récompense de deux courtes unités de prière surérogatoires. Se peut qu'une personne mésestime la récompense de cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, en parlant de celui qui venait d'être enterré: alors que les ajouter à ses œuvres est plus désiré pour lui que ce qu'il reste de votre bas monde. Et ce hadith est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Se peut qu'une personne mésestime deux courtes unités de prière. Mais lorsque tu seras dans ta tombe, ces deux courtes unités de prière, elles seront plus chères pour toi que ce bas monde et ce qu'elles contiennent. Car tu souhaiteras revenir dans ce bas monde ne serait-ce que pour accomplir ces deux unités ou la moindre œuvre afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne dois rien mésestimer parmi les œuvres de bien. Et veille à être constant dans cela, car ceci fait partie de la perfection de la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous incombe donc de multiplier les efforts pour atteindre ce degré qui, comme on a dit, est le degré le plus éminent de la religion, la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci concernait donc la bienfaisance entre le serviteur et son seigneur. Passons maintenant à la deuxième catégorie de bienfaisance, qui est celle entre le serviteur et les créatures. Et la bienfaisance envers les créatures, elle désigne la qualité de celui qui a tendance à faire du bien à autrui, être profitable pour les créatures. Et ceci est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée dans son noble livre. Il dit subhanahu wa ta'ala: Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allah ordonne certes l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et la transgression. L'éminent cheikh Abdurrahman al-Si'di rahimahullah ta'ala a dit dans l'explication de ce verset: la bienfaisance est une vertu recommandée. Elle consiste à être profitable à autrui par ses biens, par son corps, par sa science et toute autre forme de profit. Et ceci comprend même la bienfaisance envers les animaux, que ce soit ceux que l'on mange ou les autres. Fin de citation de la parole de l'imam al-Si'di rahimahullah ta'ala. Donc telle est la bienfaisance envers les créatures qui est légiférée, que tu sois profitable à autrui. Et l'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah prescrit la bienfaisance en toute chose. En toute chose. C'est une preuve que la bienfaisance est une obligation dans l'ensemble des œuvres, et pas seulement dans les adorations. Mais le serviteur se doit d'être bienfaisant même dans ses œuvres mondaines, même dans ton travail. Même dans tes actes que tu accomplis parmi les actes de ce bas monde, tu te dois d'être bienfaisant. Et d'autant plus dans tes relations avec les gens. Et ce, à commencer par tes parents, la mère et le père, envers qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être bienfaisants. Et il a même joint cet ordre à l'ordre de l'adorer exclusivement, et ce dans plusieurs versets du Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, c'est-à-dire vous un culte exclusif à Allah, et faites preuve de bonté envers les pères et mères. Et dans un autre verset, il mentionne après les parents plusieurs catégories de personnes envers qui il nous ordonne d'être bienfaisants. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Faites preuve de bonté, de bienfaisance envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Tu vois donc l'importance, à travers cela, de la bienfaisance dans tes relations avec les gens. Et la bienfaisance envers les créatures, elle consiste à donner à chacun son droit, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. C'est-à-dire que les parents, ils ont un droit immense sur toi. Tu te dois de faire preuve de bonté envers eux, de les aider lorsqu'ils ont besoin, et ainsi de suite parmi les choses qui sont légiférées envers les parents. De même que tes proches, les gens de ta famille, tes oncles, tes tantes, etc., ils ont des droits envers toi. Et entre dans cela le maintien des liens de parenté. Et ceci fait partie de la bienfaisance. Également l'époux et l'épouse, ils ont chacun des droits, l'un envers l'autre. Également les enfants ont un droit sur toi, droit de l'éducation, le droit que tu les prennes en charge, et ainsi de suite. Également les voisins, également les pauvres, et ainsi de suite. Chacun a des droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférés. Donc le fait que tu t'acquittes de tes devoirs, envers tes parents, envers tes proches, envers ton conjoint, envers tes enfants, tes voisins, envers les nécessiteux et ainsi de suite, tout ceci fait partie de la bienfaisance. Et tu dois savoir que ceci concerne même les animaux, comme on l'a mentionné dans le tafsir du verset. Il est même rapporté dans la sunna authentique qu'une femme est entrée au paradis et qu'une autre est entrée en enfer. Pourquoi ? L'une en raison de sa bienfaisance envers un chien et l'autre en raison de sa malfaisance envers un chat. La première était une femme de mauvaises mœurs parmi les enfants d'Israël. Elle vit un chien assoiffé. Elle enleva alors sa chaussure afin de lui donner à boire. Et elle fut ainsi pardonnée. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Voyez donc les fruits de la bienfaisance même envers les animaux. Elle lui a donné à boire et ceci fut la cause du pardon de ses péchés. Donc ceci est une preuve que tu es récompensé pour la bienfaisance envers les animaux. Et ce en leur donnant à manger, en leur donnant à boire, en les mettant à l'abri de la chaleur ou du froid. Et ce que ces animaux soient les tiens, ou qu'ils appartiennent à autrui, ou même si ce sont des animaux sauvages qui vivent en liberté dans la nature. Tu es récompensé pour ta bienfaisance envers ces animaux. Et inversement, la malfaisance envers les animaux peut être une cause de châtiment. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une femme a été châtiée pour avoir retenu un chat jusqu'à ce qu'il meure. Elle entra à cause de cela en enfer. En effet, elle ne l'a ni abreuvé ni nourri pendant qu'il était enfermé, et elle ne lui a pas non plus laissé la liberté afin qu'il puisse se nourrir des insectes de la terre. » Donc cette malfaisance envers ce chat fut la cause de son entrée en enfer, wal'iyadu billah. Et aujourd'hui, on voit nombre de personnes négligentes à ce sujet et qui sont malfaisants, notamment envers les animaux sauvages ou alors même envers le bétail pour ceux qui s'occupent des moutons, des poules, etc. Ils pensent que sous prétexte que l'animal ne parle pas, alors il peut lui faire ce qu'il veut. Mais tu dois savoir que chacun de tes actes, tu auras à en rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bienfaisance, dans son aspect général, elle rentre même, comme on a dit, dans le travail que tu accomplis ou les tâches qui te sont confiées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, lorsque l'un d'entre vous fait une œuvre, Allah aime qu'il s'y applique, c'est-à-dire qu'il l'accomplisse de la meilleure manière, commençant par être à l'heure, à respecter les conditions sur lesquelles tu t'es mis d'accord, à t'appliquer dans la tâche qui t'est confiée, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie de la bienfaisance. Et si tu as une bonne intention en faisant cela, tu seras récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit à travers cela que la bienfaisance est générale, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit en toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la bienfaisance. et nous a dit qu'il aimait les bienfaisants. Il dit subhanahu wa ta'ala, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Et soyez bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. L'imam al-Si'di rahimahullah ta'ala dit dans l'explication de ce verset, ceci englobe l'ensemble des formes de bienfaisance, car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas restreint à une chose particulière. Donc entre dans cela la bienfaisance avec les biens, comme le fait de donner des aumônes aux nécessiteux, le fait de prendre en charge ses parents, ses enfants, etc. Tout ceci fait partie de la bienfaisance. Certaines choses sont obligatoires et d'autres sont surérogatoires. Il dit ensuite, rahimahullah, entre également dans cela la bienfaisance de par ta notoriété, comme par exemple en intercédant en faveur de certaines personnes. Entre dans cela également la bienfaisance par le commandement du bien et l'interdiction du mal. Lorsque tu commandes le bien à une personne, que tu vois une personne négligente quant à sa prière, quant à sa zakat obligatoire et ainsi de suite, parmi ses obligations, et que tu lui ordonnes le bien, que tu lui ordonnes le convenable, ceci est une forme de bienfaisance envers elle. Et également, le fait d'interdire le mal. Lorsque tu vois une personne faire un péché, lorsque tu vois une personne en train de transgresser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu lui interdis et que tu la blâmes, ceci fait partie de la bienfaisance. Ce n'est pas une forme de malfaisance envers elle de la blâmer à cause de ce péché qu'elle commet. Également entre dans la bienfaisance le fait d'enseigner la science profitable. Lorsque tu enseignes le Coran à tes enfants, lorsque tu prends en charge leur éducation, lorsque tu apprends les règles de la religion que tu as acquises aux gens de ton entourage, parmi tes proches, tes amis et ta famille, tout ceci fait partie de la bienfaisance. Également entre dans cela, il dit, rahimahullah, le fait de combler les besoins des gens lorsqu'ils sont en difficulté, lorsqu'ils sont dans le besoin. Et ce, que ce soit par l'argent, en comblant leurs besoins financiers, ou alors physiquement, il se peut que quelqu'un ait de lourdes charges à accomplir et qu'il ait besoin d'aide. Donc tu vas l'aider en cela et ceci fait partie de la bienfaisance. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, le fait de visiter les malades, de suivre les convois funéraires, le fait d'orienter quelqu'un qui est perdu. Même cela, cela fait partie de la bienfaisance. Tu vois quelqu'un qui est perdu sur sa route, tu lui indiques le chemin de l'endroit qu'il souhaite rejoindre, ceci fait partie de la bienfaisance. Il dit ensuite, rahimahullah, et celui qui accomplit un travail, pour celui qui ne sait pas le faire. Tu aides quelqu'un à accomplir une chose qu'il n'arrive pas à faire. Tout ceci fait partie de la bienfaisance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée. Puis ensuite il dit, rahimahullah ta'ala, et entre aussi dans ce verset, c'est-à-dire le verset où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'être bienfaisant, la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Ensuite il dit, rahimahullah, et quiconque se pare de ses caractéristiques, de ses qualités, tout ce que l'on vient de mentionner comme forme de bienfaisance, il dit, rahimahullah, il fera partie de ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ » Ceux qui ont été bienfaisants auront الْحُسْنَى, c'est-à-dire le paradis, et un ajout à cela, et comme l'ont dit les savants du tafsir, l'ajout à cela c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Puis il dit « Et Allah subhanahu wa ta'ala sera avec lui, il lui donnera la rectitude, il l'orientera et il l'aidera dans l'ensemble de ses affaires. » Fin de citation de la parole de l'imam al-Si'di, rahimahullah ta'ala, selon le sens rapproché. Donc tu vois les fruits immenses de la bienfaisance. D'un point de vue général, c'est une cause qui te permettra d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah aime les bienfaisants. C'est une cause qui te permettra d'entrer au paradis, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour ceux qui ont été bienfaisants, ils auront le paradis et un ajout, voir Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, au paradis. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs bienfaisants, ceux qui accomplissent leurs actes d'adoration sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et se conformant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra dans le cours de demain la leçon 6 au sujet des conditions de la prière. Bi'inillahi ta'ala wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم